Bon, donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Je reconnais un certain nombre de visages familiers dans l'assistance, donc merci à tous et à toutes d'être venus aujourd'hui. Ce cours inaugure en fait une sorte de cycle que je conçois un petit peu sur 2 ans. 6 cours et un certain nombre de séminaires sur le printemps 2013. Et puis, dans la foulée à l'automne 2013, le cours de l'année prochaine, qui continuera, je pense, tout au moins si le sujet continue à vous intéresser, autour de la thématique de la thermoélectricité au sens large. Alors, pour moi, ce cycle inaugure une partie de mon cours, enfin, une sorte de nouvelle ère de mon enseignement au collège, qui est que je commence à enseigner des choses que je ne connais pas bien moi-même, voire pas du tout. Donc ça va être un petit peu prouver le mouvement en marchant. J'ai eu des raisons, disons, scientifiques, personnelles, d'aller un petit peu vers la thermoélectricité, mais je dirais un peu par la tangente, à la fois par l'intermédiaire des matériaux à forte corrélation électronique, des oxydes et de leur application à la thermo, et d'autre part, plus récemment, curieusement, à travers la thématique des atomes ultrafroids, où on regarde des problèmes de transport thermoélectrique. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis intéressé à ce sujet, et comme ce sujet a connu depuis, je dirais, au moins une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années, un renouvellement assez remarquable, eh bien j'ai pensé que c'était un bon sujet de cours, et finalement, en regardant le sujet de plus près, on voit qu'il y a matière pour poursuivre ça sur 2 cycles d'enseignement. Alors, aujourd'hui, c'est la première séance, donc je voudrais tout de suite vous dire que c'est une séance qui va être assez généraliste. Hein. Donc, je l'ai conçue comme une sorte d'introduction générale au domaine. Donc, le cours d'aujourd'hui, il est non technique, dans une large mesure, et puis, au fur et à mesure des séances prochaines, on va entrer plus dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, il y aura très peu d'équations, c'est un cours assez non technique. Comme d'habitude, le cours est en français, les transparents sont en anglais pour permettre, j'espère, à tout le monde de suivre le mieux possible. Donc, le programme du cours d'aujourd'hui, c'est de vous donner un petit peu une perspective générale sur le domaine. Également une perspective historique, parce que finalement, quand on entre dans le sujet de la thermoélectricité, on s'aperçoit qu'il y a toutes sortes de jalons historiques qui sont assez intéressants, assez amusants, voire assez émouvants quelquefois. Donc, j'ai essayé de mettre dans ce cours-là un certain nombre d'aspects historiques. Il y en aura de moins en moins au fur et à mesure qu'on avancera dans le programme d'enseignement. Et puis, donc, je vais vous introduire les principaux effets thermoélectriques, enfin 2 aujourd'hui. On ne va pas aller vers des effets en champ magnétique qui seront traités par Kaman Benya dans le séminaire de la semaine prochaine. Et si j'ai le temps, mais ce n'est pas tout à fait sûr, vers la fin du cours, j'entamerai une partie un petit peu plus technique où on établit les coefficients de transport, les équations de transport en réponse linéaire. Donc voilà en gros le menu d'aujourd'hui. Et j'en profite pour tout de suite annoncer notre séminariste, qui est Thierry Caya, qui est donc ici. Thierry Caya est un spécialiste de la thermoélectricité. Il travaille au Jet Propulsion Lab à Caltech. Il a bien voulu venir spécialement pour l'occasion pour ce séminaire et pour une petite visite dans d'autres laboratoires en France. Je suis très content qu'il ait accepté l'invitation puisqu'il va nous parler, il va nous faire une sorte de large revue des applications de la thermoélectricité. Ce qui est très intéressant dans ce domaine, me semble-t-il, c'est que c'est un domaine très interdisciplinaire où il y a de la physique, de la science des matériaux, de la chimie, de l'ingénierie, que ça va depuis l'amont jusqu'au côté applicatif. Et donc, je suis très content qu'on ait, comme premier séminaire, quelque chose qui passe un petit peu en revue les aspects à la fois les plus récents de développement de matériaux et les aspects applicatifs. Alors, dans les conférences qui vont suivre, de quoi est-ce que je vais vous parler? Alors, comme je prépare ces cours un petit peu en temps réel. Il y a une certaine incertitude sur la fin du programme, mais la fois prochaine, je vais vous parler de thermodynamique de la thermoélectricité. En fait, il y a plein d'aspects thermodynamiques qui sont assez intéressants et qui dépassent en fait très largement le cadre de la thermoélectricité, qui sont très généraux, qui s'applique à tous les processus de conversion de l'énergie. Donc je vais consacrer un cours à ça, je pense la semaine prochaine, et ça sera un cours au tableau, pour changer un petit peu. Il y aura des notes sur le web, mais il y aura très peu de slides la fois prochaine. Ensuite, il y a un trou d'une semaine où il n'y a pas de cours, j'ai une conférence au Japon. Ça reprendra pour 4 séances de cours. Le 10 avril, je terminerai un peu la thermo et je vous parlerai de théorie du coefficient Seebeck, en particulier pour les systèmes à forte corrélation électronique, donc du côté des oxydes. Je fais ça ce jour-là parce que le séminaire de cette semaine sera fait par Sylvie Weber, qui est aussi là aujourd'hui, du CRISMAT de Caen, et qui nous fera une revue sur les oxydes pour la thermoélectricité. Le 17 avril, je continuerai les aspects théoriques, peut-être plutôt du côté des semi-conducteurs, toujours pour le Seebeck, et on aura un séminaire de Franck Gascoin, qui est également au CRISMAT de Caen, qui va nous parler de toutes sortes de matériaux, plutôt pas les oxydes, puisqu'ils ont été couverts la fois d'avant. Et puis, le 24 avril, je ferai deux cours, et là, je ne suis pas encore tout à fait sûr de ce que je ferai. Il y en aura peut-être un, plus sur les aspects fondamentaux de la formule de Kubo et pour les coefficients de transport, et l'autre avec des notions très générales sur le transport thermique, de manière à préparer une série de trois, peut-être quatre séminaires qui auront lieu probablement le 22 mai, sous la forme d'une sorte de mini-session spécialisée avec 3-4 speakers qui nous parleront de transport thermique et de nanostructuration, d'amélioration d'abaissement de la conductivité thermique par nanostructuration. Et puis, à l'automne 2013, donc à des dates que j'annoncerai ultérieurement, il y aura une continuation de ce cours dans différentes directions. En particulier, c'est dans cette période-là que j'aborderai des aspects de transport thermoélectrique dans les mésoscopiques, qui est un sujet différent, qui a connu un assez grand regain d'intérêt récent et auquel j'ai été un peu initié par Jean-Louis Pichard, que je reconnais aussi ici dans l'audience. Donc voilà un petit peu le menu général de ce cycle. Comme je le disais, je ne suis pas un spécialiste du domaine. J'y suis venu un peu par la tangente. Et donc je suis très reconnaissant à un certain nombre de collègues qui m'ont aidé à entrer dans le sujet et à définir les contours de cet enseignement. D'abord Sylvie Hébert, qui anime le GDR thermoélectricité, enfin qui est l'une des animatrices du GDR thermoélectricité, qui fédère la communauté française sur ce sujet. Et je dois dire que le site web de ce GDR est une mine de ressources sur le sujet, avec des écoles d'été très actives, des conférenciers dans ces écoles d'été qui font un énorme travail. Les slides de ces écoles d'été sont très utiles, aussi quand on prépare un cours au Collège de France. Donc merci à elle et à Antoine Maignan pour des discussions sur le sujet, une visite intéressante au CRISMAT récemment. Merci à Jean-Louis Pichard qui m'a un petit peu éveillé mon intérêt pour les aspects thermoélectricité dans les mésoscopiques. Il y a eu un workshop intéressant sur ce sujet à Cargès en octobre et il y a aussi un site web avec des transparents intéressants, des exposés qui ont été faits à cette occasion. J'ai eu pas mal de discussions avec Cameron Beignard plutôt sur les aspects Seebeck comme sonde des quasi-particules qui sera l'objet du séminaire de la semaine prochaine, des discussions avec Christophe Goupil sur la thermodynamique de la thermoélectricité à Cargès. Et puis, merci également à trois fidèles post-docs de mon équipe avec lesquels j'ai des discussions fréquentes sur différents aspects de ce sujet. Charles Grenier qui défriche un peu en pionnier les aspects thermoélectricité dans les gaz d'atomes ultra-froids. Yernheim Ravier sur toutes sortes d'aspects des corrélations électroniques, en particulier dans les oxydes, et Alaska Soubedi qui m'initie à la physique des phonons. Voilà. Bien, donc après un petit peu cette présentation du chemin qu'on va essayer de parcourir ensemble, je vais tout simplement vous introduire les deux principaux effets thermoélectriques. Je dis principaux parce qu'ils sont quand même les plus importants en pratique et également parce qu'ils sont historiquement ceux qui ont été découverts en premier. Donc le premier, c'est bien sûr l'effet Seebeck. Donc l'effet Seebeck consiste à appliquer un gradient thermique, une différence de température aux extrémités d'un conducteur et à s'apercevoir que quand on fait ça, eh bien, on établit une différence de potentiel. Et la différence de potentiel est liée à la différence de température par cette relation où alpha s'appelle le coefficient Seebeck ou le pouvoir thermoélectrique du matériau. Alors, vous voyez ici, il y a un signe moins, c'est important. Dans cette équation-là, la convention pour delta V est la même que pour delta T, c'est-à-dire ça, ça serait V2 moins V1 et ça, ça serait T2 moins T1. Si j'exprime au contraire les choses en termes de la chute de potentiel, comme les conventions sur l'intensité ont le mauvais goût d'être dans le sens antinaturel, je dirais, eh bien, tout à coup, on obtient U égale plus alpha delta T. Donc, j'attire votre attention sur ces problèmes de signes qui ont une grande importance dans la thermoélectricité, puisque le coefficient Seebeck, quand les porteurs sont des électrons, comme vous allez le voir, est négatif, quand les porteurs sont des trous, est positif, et tout le problème, c'est d'éviter la compensation entre les porteurs négatifs et les porteurs positifs, donc quand on se trompe dans les signes, ben, c'est un peu embêtant. Voilà. Donc, l'observation en pratique de l'effet Seebeck se fait souvent dans un système comme ceci, où il y a deux matériaux, puisqu'il faut bien des fils de mesure, et à ce moment-là, on mesure une différence entre les coefficients Seebeck des deux parties du thermocouple. Mais j'insiste sur le fait que, contrairement à ce qu'on peut lire dans certains livres très anciens sur le sujet, les coefficients thermoélectriques sont des propriétés intrinsèques d'un matériau, et la meilleure manière de s'en apercevoir en pratique, c'est par exemple de prendre pour B un matériau qui n'aurait aucune résistivité et aucun Seebeck comme un supraconducteur. Alors évidemment, ça marche dans le régime de basse température, mais dans ce cas-là, alpha B est zéro, et on peut faire des mesures intrinsèques du coefficient Seebeck du matériau. Alors, pour la petite histoire, voilà le dispositif original de Seebeck. Ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait fabriqué, donc je crois que c'est même une photo du vrai dispositif, il avait fabriqué un thermocouple entre deux métaux, donc on verra tout à l'heure que dans les métaux, l'effet est petit, donc l'effet était difficile à mesurer, j'imagine. Et il avait chauffé une extrémité et observé que l'aiguille de boussole qui était ici, entre les deux branches de cette jonction, était déviée lorsqu'on chauffait une des extrémités. Donc Seebeck avait en fait interprété ce phénomène comme un phénomène magnétique. Et la petite histoire veut qu'il avait toute sa vie nié l'existence d'un phénomène électrique associé à cet effet. Il avait même construit toute une théorie selon laquelle cet effet pouvait être responsable du champ magnétique terrestre, hein, puisqu'il fait chaud à l'équateur et froid au pôle. Donc ça montre comment on peut avoir toutes sortes d'idées originales et fausses peut-être de manière intéressante en science. Voilà, donc Seebeck, c'était quelqu'un qui avait, je crois, une formation de médecin, mais qui était passé à la physique, comme il était possible de le faire à cette époque. On faisait de la physique de manière brillante en amateur. Il a donc découvert l'effet Seebeck, l'effet thermoélectrique. En fait, cette découverte est historiquement contestée et on peut même l'attribuer à Volta, comme vous allez voir dans un slide ultérieur. Mais il a fait également d'autres choses. Il a fait des études fondamentales sur le magnétisme, le magnétisme du nickel et du cobalt, par exemple. Et il est également présenté, en particulier sur le site de Wikipédia, comme une sorte de précurseur de la photographie en couleur, enfin, un précurseur lointain, puisqu'il avait apparemment découvert la sensibilité du chlorure d'argent à la lumière. Donc un esprit riche. Et comme je le disais, cette attribution de la thermoélectricité à Seebeck est en fait questionnée par la communauté des thermoélectriques actuelles, puisqu'il semblerait que Volta, en 1794, hein, donc bien avant, avait découvert l'effet Seebeck. Il faudrait peut-être appeler l'effet Seebeck-Volta. Et Volta utilisait comme un des deux éléments du thermocouple une grenouille. Donc il avait deux solutions liquides. Il mettait une pauvre grenouille entre ces deux solutions. Il chauffait une extrémité d'un métal. Il le trempait ici et la grenouille se contractait. Voilà l'expérience de Volta. Tout à fait impossible à faire dans les laboratoires modernes, je suppose. Sans autorisation de toutes sortes de comités d'éthique. Donc voilà l'expérience de Volta et voilà pourquoi eh bien, il y a désormais une plaque dans le temple de Volta, puisque Volta a un temple qui lui est dédié, qui le consacre, hein, approuvé par l'Académie internationale de thermoélectricité, qui le consacre comme découvreur de la thermoélectricité. Bien. Alors, pour revenir à des choses un petit peu moins historiques, comment est-ce qu'on peut se représenter qualitativement le phénomène? Donc ça, c'est extrait d'un petit dessin qui est extrait d'un très joli article de Paul Chaikin, à l'époque des supraconducteurs organiques. La mesure des coefficients Seebeck était toujours très utilisée pour caractériser ces systèmes. Et donc, à l'époque, il avait écrit une petite revue qui n'est pas très facile à trouver, qui s'appelle « An Introduction to Thermopower for those who might want to use it », et qui contient des images qualitatives très simples. Donc, on peut se représenter les choses de la manière suivante. On a l'échantillon de cette manière. Ça, c'est le côté froid, le côté chaud. Il est légitime de penser que du côté chaud, la densité de porteur est moins grande que du côté froid. Hein, la densité diminue quand on chauffe. Par conséquent, on va accumuler des porteurs du côté froid. Alors, si on imagine que ces porteurs sont des électrons, ils n'ont pas des trous, des électrons, donc chargés négativement, vous voyez que ça va induire un champ électrique dans le système. Donc ça fait un petit peu penser à l'effet Hall, où on établit une tension transverse cette fois. Ici, on a une accumulation de porteurs du côté froid qui établissent un champ électrique. Si les porteurs sont des électrons, le champ électrique est dirigé comme ceci, et donc il est opposé au gradient thermique. Donc vous voyez que comme le champ électrique est relié au gradient thermique en réponse linéaire par le coefficient Seebeck, eh bien, si les porteurs sont des électrons, le coefficient Seebeck est négatif. Si les porteurs sont des trous, le coefficient Seebeck est positif. Voilà, on parlera de thermoélectrique de type N quand alpha est négatif, thermoélectrique de type P quand alpha est positif. Bien, donc ça, c'est l'image intuitive qu'on peut s'en faire. Au passage, on voit que le coefficient Seebeck est aussi une sonde utile de la nature des porteurs, et on entendra parler plus de cet aspect dans le séminaire de la semaine prochaine, et en particulier de leur signe de manière complémentaire à l'effet Hall. Second effet thermoélectrique, qui est une sorte d'image miroir de l'effet Seebeck, donc l'effet Peltier, découvert un peu plus tard, 1834, qui donc est la production de chaleur à la jonction de deux conducteurs traversés par un courant, et il s'agit de production de chaleur réversible. C'est ça qui est le phénomène remarquable dans ces effets thermoélectriques, c'est que si je change le sens du courant, eh bien on a absorption ou émission de chaleur. Et toute la force et l'intérêt de la thermoélectricité dans la réversibilité de ces effets, et on verra lors du cours prochain ce que ça veut dire du point de vue thermodynamique. On peut imaginer la situation suivante. On a toujours mon thermocouple. On fait cette fois passer un courant, il y a une extrémité de la jonction qui chauffe et l'autre qui se refroidit, et on définit cette fois le coefficient Peltier de ce thermocouple comme le lien entre le taux de production de chaleur par unité de temps et l'intensité qui traverse le courant, Q point égale pi fois i. Et en réalité, si maintenant je reviens au coefficient Seebeck et au coefficient Peltier d'un matériau, donc intrinsèque pour A ou pour B, eh bien il y a une relation qui a été établi, deviné par Kelvin bien plus tard, entre le coefficient Seebeck et le coefficient Peltier, qui est que cette chaleur Peltier est donnée par le coefficient Seebeck fois la température absolue. Et cette relation est en fait une conséquence directe de la symétrie d'Ansager entre les coefficients L1,2 et L2,1, comme on le verra soit à la fin de ce cours, soit vu l'heure, un peu plus probablement la fois prochaine. Donc, relation de Kelvin, et puisque je parle de Kelvin, alors d'abord quelques mots sur Peltier. Donc Peltier, c'était aussi de cette heureuse époque où on pouvait faire un premier métier, puis devenir physicien de manière brillante. Donc Peltier, c'était un horloger, un fabricant de montres, qui avait pris sa retraite autour de l'âge de 30 ans et était devenu physicien par vocation et avait donc découvert cet effet. Il est aussi connu pour d'autres mesures dans le domaine de la physique thermique. En particulier, il avait mesuré la température de gouttes d'eau en caléfaction sur une plaque chaude. Le grand personnage de la thermoélectricité, donc vous voyez comment la thermoélectricité se développe, je dirais en parallèle avec des considérations technologiques ou industrielles, puisqu'évidemment, le 19e siècle, c'est l'émergence de la thermodynamique, les machines à vapeur, la science des échanges d'énergie. Et c'est Lord Kelvin, William Thomson, qui met sur des bases solides, je dirais, la thermodynamique de la thermoélectricité. William Thomson, que tout le monde connaît ici, évidemment, un esprit assez universel, qui était à la fois un physicien, même assez du côté physique-mathématique, physique-théorique, et un ingénieur. En fait, il est devenu Lord Kelvin, pas tellement à cause de ses travaux fondamentaux en physique, mais parce qu'il avait posé, été un des pionniers de la pose du premier câble télégraphique transatlantique. C'est pour ça qu'il a été anobli. Évidemment, Kelvin est connu pour ses travaux pionniers sur les fondements de la thermodynamique, en particulier en essayant de réconcilier les points de vue de Carnot, qui est un grand précurseur de la thermodynamique, on en parlera un peu la prochaine fois, mais qui interprétait les choses en termes de calorique, comme fluide transportant la chaleur, et les idées de Joule qui se développaient au même moment. Bien. Kelvin avait deviné cette relation pi égale t alpha, ainsi qu'une autre relation entre coefficients dont je parlerai la fois prochaine quand je parlerai de l'effet Kelvin. Alors, donc, on a vu l'effet Zeebeck, l'effet Peltier, et immédiatement on peut imaginer que ces deux effets ont des applications directes, l'une au refroidissement et l'autre à la génération d'électricité. Donc là, on va utiliser l'effet Peltier. Alors en pratique, ce qu'on utilise, c'est un module N et un module P, donc avec un alpha N négatif et un alpha P positif ici. On fabrique un circuit comme ceci, avec un module N, un module P. Ici, il y a une source de courant. Et quand on fait passer le courant comme ceci, le courant passe dans la jonction de cette manière-là, comme ceci, comme vous allez le voir dans le slide suivant, et on refroidit cette surface. Donc ça, c'est le module de refroidissement Peltier de base qui permet, à partir d'une source de courant, de refroidir la surface de l'échantillon ici, du côté froid. Inversement, on peut utiliser l'effet Zeebeck pour, en chauffant le côté chaud, produire un courant électrique. Donc on peut utiliser les choses en mode générateur ou en mode refroidissement. Alors, intuitivement, comment se passe le phénomène de refroidissement Peltier? Le phénomène de refroidissement Peltier peut se concevoir de la manière suivante, et je pense que c'est assez instructif de le voir qualitativement comme ça. Donc, si on regarde comment passent les porteurs de charge, vous voyez que les porteurs de charge passent dans la même direction physique dans les deux modules, ici, les électrons vont vers le bas et les trous vont vers le bas. Mais si je regarde, évidemment, par rapport au sens du courant, eh bien, les porteurs électroniques dans le module N vont à l'envers du courant ici, et les porteurs trous dans le module P vont dans le sens du courant. Ce qui veut dire que si vous pensez au phénomène de refroidissement, vous avez, à haute température, une distribution des électrons dans le système, ça c'est la fonction de Fermi à une certaine température, disons, élevée, qui est représentée par la courbe rouge. Et ce que vous faites, en fait, dans le refroidissement Peltier, c'est que vous enlevez des électrons au-dessus du niveau de Fermi, donc vous voyez que ça va bien abaisser l'entropie du système et donc refroidir, et vous enlevez des trous sous le niveau de Fermi. Ce qui veut dire que vous remplissez ces états, et donc, ça amène également un abaissement d'entropie et vous refroidissez également. Et donc, vous voyez, le mot important ici, c'est le mot « enlever ». Donc, vous voyez que le fait que les trous et les électrons quittent le module froid traduit bien le fait que vous faites évoluer la fonction de Fermi dans cette direction, à la fois, je dirais, par refroidissement évaporatif d'électrons et par refroidissement évaporatif de trous. Donc l'évolution de la distribution en énergie des électrons suit quelque chose comme ça en fonction du temps. Alors ça, c'était le principe théorique, on va dire. Ça, c'est les choses en pratique. J'ai extrait ces captures d'écran de petits films que vous pouvez trouver sur YouTube, qui sont faites par la société Tellurex.com. Un module Peltier, ça ressemble à quelque chose comme ça. Il y a un côté chaud et un côté froid. Il y a un certain nombre de modules NP qui sont mis en série de cette manière. Et puis, vous avez ici le côté froid et la source de courant. Alors ça peut fonctionner donc en mode générateur ou en mode refroidissement. et vous trouverez sur YouTube un petit film où on vous montre ici, ça c'est le module, hein, avec les fils d'arrivée, vous chauffez d'un côté, et puis vous produisez du courant qui allume cette petite diode ici qui est coupée par le titre. Bien, alors à quoi ça peut servir tout ça? Comme je pense qu'on va en entendre parler dans le séminaire d'aujourd'hui, une chose à laquelle ce genre de choses peut servir en mode générateur, eh bien, c'est de récupérer la chaleur perdue dans l'utilisation de l'énergie au quotidien. Alors, de la chaleur perdue, il y en a beaucoup. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur le site du Lawrence Livermore National Lab, qui concerne les États-Unis, avec toutes les différentes sources de chaleur, d'énergie, leurs différentes utilisations, donc dans le domaine résidentiel, commercial, industriel, les transports. Et vous voyez ici, sur ce graphe, que plus de 50% de l'énergie produite est en réalité dissipée sous forme de chaleur et pour une bonne part rejetée dans l'atmosphère, ce qui n'arrange pas le réchauffement climatique. Et on peut imaginer que, grâce à des méthodes permettant de convertir cette énergie perdue en électricité, cette chaleur perdue en électricité, eh bien, on puisse récupérer une partie de cette énergie perdue. Il s'agit évidemment d'un processus qui demande une bonne efficacité des modules thermoélectriques, et cette question de l'efficacité, eh bien, c'est là une des grandes questions du domaine. Comment améliorer l'efficacité de ces systèmes? Alors, puisqu'on parle d'efficacité, c'est le bon moment pour vous présenter un petit peu une évaluation simple de l'efficacité d'un module de refroidissement Peltier. Alors, j'ai pris l'exemple du refroidissement parce que dans le cours suivant, où on fera de la thermodynamique un petit peu plus détaillée, sous forme locale, en fait, eh bien, on évaluera plutôt les efficacités en termes de générateurs. Donc là, je vais vous le faire en termes de refroidissement pour que vous ayez vu les deux aspects. Donc reprenons le dispositif de refroidissement Peltier avec un courant qui circule dans ce sens et donc un module N, un module P. Dans toute la suite de cette discussion, j'appelle alpha la différence des deux coefficients du module P et du module N. Je vous rappelle que alpha N est négatif, donc ici, en fait, on veut que les deux coefficients s'ajoutent, c'est toute l'idée. La somme des résistances et la somme des conductances thermiques des deux matériaux, et delta T, la différence de température entre le côté froid et le côté chaud. Alors, si vous estimez la chaleur produite par unité de temps, eh bien, la chaleur produite par unité de temps, vous voyez que ça va être le coefficient Peltier. Donc là, j'ai déjà utilisé la relation de Kelvin-Hansager qui relie pi à alpha T, donc c'est la chaleur émise du côté froid par unité de temps, hein, c'est pour cold, c'est donc le coefficient Peltier fois l'intensité, donc ça c'est quelque chose qu'on gagne, hein, c'est la chaleur qui est émise par le côté froid, donc c'est ce qui permet de refroidir le côté froid, donc il y a un signe plus ici, et puis il y a deux signes moins qui sont les pertes, il y a une perte qui est la perte par effet Joule, alors là j'ai distribué comme on le fait souvent dans les livres, mais au total c'est pas très grave, ça s'ajoute. J'ai distribué la perte par effet Joule entre les deux extrémités du circuit, donc 1,5 de RI2, et puis une perte due à la conduction de chaleur qui veut faire remonter la chaleur du côté froid au côté chaud. Hein. Donc il y a ces deux signes moins ici, et vous voyez tout de suite ici la base de l'efficacité thermoélectrique qui va apparaître par la suite. Pour qu'un module de refroidissement Peltier soit efficace, il faut que alpha soit le plus grand possible, donc on veut un grand ZBEC. Hein. Il faut que les pertes par conduction de chaleur soient les plus faibles possibles, donc on veut une faible conductance thermique. Hein. Et il faut que les pertes par effet Joule soient les plus faibles possibles, donc on veut une faible résistance ou une bonne conductivité. Voilà. Donc bonne conductivité, faible conductivité thermique, bon ZBEC, c'est ça les trois mots-clés de l'efficacité thermoélectrique. Alors, on peut continuer ce bilan d'énergie, on peut estimer de la même manière le taux de production de chaleur du côté chaud, tout à fait de la même manière, on fait la différence, et ça vous donne, par conservation de l'énergie, le coût de l'opération, c'est-à-dire le travail qu'il faut fournir au générateur pour refroidir le système, et ce travail est la somme de deux termes, la puissance nécessaire, donc ça c'est la puissance, la dérivée du travail par rapport au temps, il y a un terme qui est simplement V fois I, où V est la chute de tension Peltier, hein, qui est la puissance nécessaire pour soutenir le voltage Peltier, la tension Peltier, et puis la perte correspondant à l'effet Joule. Et vous pouvez définir un coefficient d'opération de ce frigidaire, donc qui s'appelle en pratique coefficient de performance en mode de réfrigération, comme le rapport de la chaleur produite à la source froide, divisé de la puissance calorique émise par la source froide, divisée par la puissance qu'il faut du générateur. Et c'est très commode de l'écrire de cette manière. J'attire votre attention sur cette variable sans dimension qu'on va retrouver quand on fera de la thermodynamique un petit peu plus formelle la prochaine fois, qu'on peut voir comme un rapport de deux forces généralisées, en fait. Donc il y a ce rapport sans dimension qui est la variable sur laquelle on peut jouer pour opérer notre module en choisissant, par exemple, le courant qu'on va faire passer dans le système pour refroidir. Et puis ici, tout le reste est fixé. Et vous voyez apparaître ici une quantité très importante qui s'appelle la figure de mérite, et c'est le but de ce petit calcul était essentiellement d'introduire cette quantité. Donc vous voyez que la quantité qui intervient ici, c'est cette figure de mérite qui est le carré du coefficient Seebeck divisé par la conductance thermique et le carré de la résistance électrique. Et pardon, excusez-moi, il y a une faute ici, il n'y a pas de carré, c'est alpha carré sur KR, faute de frappe sûrement transparent. Et donc, vous voyez que ce qui est nécessaire pour avoir un bon thermoélectrique, c'est un grand Seebeck, une mauvaise conductance thermique et une bonne conductance électrique. Donc, je corrigerai ça sur les slides. Cette quantité s'appelle la figure de mérite et le produit de cette quantité fois la température est une quantité sans dimension qui est souvent utilisée comme un critère d'optimisation des thermoélectriques et qui joue un rôle en fait très important dans le domaine. Si vous calculez maintenant la puissance thermique correspondante, elle varie comme le carré du gradient thermique fois le numérateur de cette expression, fois un facteur ici qui est alpha carré sur R, qui s'appelle le facteur de puissance, qui est aussi quelque chose qu'on aime regarder dans le domaine des thermoélectriques. Et puis vous voyez que cette figure de mérite sans dimension, Z fois la température de la source froide, est également directement liée à l'abaissement de température maximum en valeur relative que vous pouvez obtenir. Donc vous voyez que cette figure de mérite, elle contrôle énormément de choses dans ce domaine, et je répète, ce qu'on recherche, c'est des matériaux qui ont un grand coefficient Seebeck, qui sont des bons conducteurs, et qui sont des mauvais conducteurs thermiques. Donc voilà une des clés du problème, qui va revenir très souvent dans la suite. Alors, entre parenthèses, je note que vous avez vu dans ce calcul apparaître cette figure de mérite ZT, cette figure de mérite sans dimension, mais qu'en fait, on n'a pas vraiment compris pourquoi elle apparaissait. On l'a obtenue juste en réécrivant l'expression de la puissance et on n'a pas véritablement compris à travers ce calcul pourquoi c'est cette figure de mérite sans dimension qui apparaît. Et j'espère que vous le comprendrez mieux lors de du prochain cours, où je ferai de la thermodynamique plus générale, un petit peu plus formelle et finalement plus illuminante, qui permettra de comprendre que cette figure de mérite, c'est vraiment quelque chose qui est très très général, non seulement dans le cadre de la thermoélectricité, mais dans tous les domaines de conversion d'énergie. Elle est en fait directement liée à la matrice des coefficients d'Onsager. Il y a une sorte de constante de couplage sans dimension permet toujours de caractériser un processus de conversion d'énergie. Cette constante de couplage sans dimension, en fait, comme vous verrez la prochaine fois, elle est liée à Z bar sur Z bar plus 1. C'est une constante de couplage qui vaut entre 0 et 1. 0 étant un cas où les deux processus sont très mal couplés. Et 1, qui correspond à Z bar tendant vers l'infini, étant des processus parfaitement couplés où on retrouve l'efficacité de Carnot. Donc je parlerai de ça la prochaine fois. Bon, alors je continue un petit peu dans l'efficacité des frigidaires dont j'étais en train de parler là. Donc si je remets tout ça ensemble, on peut regarder la dépendance de ce coefficient de performance en fonction de cette variable de contrôle X, et il y a deux valeurs remarquables qu'on peut vouloir regarder. La première, c'est le maximum d'efficacité, donc le maximum de coefficient de performance. Et quand vous faites le calcul, vous voyez que ce maximum est donné par cette expression. C'est un calcul très simple. Vous extrémalisez sur X, et vous obtenez cette expression. Donc, de nouveau, l'efficacité maximum est contrôlée purement par deux quantités, le rapport de la température de la source chaude à la source froide et la figure de mérite sans dimension, qui est ici définie par rapport à la température moyenne. Alors, vous voyez que si je fais tendre Z bar tend vers l'infini, si je fais tendre formellement, hein, on n'a pas de matériaux qui font ça, mais si je fais, on aimerait bien, mais si on fait Z bar tend vers l'infini, eh bien, vous trouvez ici 1 sur 1 moins Tc sur Th, qui est en fait très directement relié à l'efficacité de Carnot d'un système. C'est encore plus clair en mode générateur, donc ça, c'est en mode frigidaire, ça, c'est en mode générateur. En mode générateur, on peut définir une efficacité de génération, un petit peu de la même manière, et on trouve cette expression. Vous voyez que quand Z bar tend vers l'infini, on trouve 1 moins Tc sur Th, qui est l'efficacité de Carnot d'un cycle réversible, et ça, on le verra plus en détail la prochaine fois quand je ferai de la thermodynamique. Et à l'inverse, évidemment, quand Z bar tend vers 0, on a un très mauvais processus de conversion. Donc ça, c'est une première quantité qu'on peut vouloir regarder. Une autre qu'on peut vouloir regarder, c'est l'efficacité prise pour la valeur maximum de la puissance de refroidissement, ce qui est différent de l'efficacité maximale. Je reviendrai là-dessus la prochaine fois. Et on voit que c'est aussi contrôlé par la figure de mérite et par le rapport de la source chaude à la source froide. Alors, si maintenant je prends cette expression ici et que je la trace en fonction de la figure de mérite sans dimension, pour un cas où j'ai pris la source froide à 0 degré, le côté froid à 0 degré et le côté chaud à 30 degrés Celsius, donc qui est, disons, le cas d'un frigidaire domestique habituel à peu près, eh bien vous voyez que ce coefficient de performance en fonction de la figure de mérite sans dimension, c'est une courbe comme ça, et les frigidaires commerciaux à base de compresseurs et de gaz porteurs ont des coefficients de performance qui sont à peu près ici, autour de 3, entre 3 et 4. Donc vous voyez que pour atteindre ce genre de processus avec la réfrigération Peltier, de la réfrigération thermoélectrique, il faudrait disposer de systèmes qui aient une figure de mérite sans dimension autour de 3, 4. Et c'est souvent présenté comme une sorte de cible vers laquelle on voudrait se diriger pour pouvoir battre en brèche vos frigidaires dans nos habitations. Alors évidemment, il y a un énorme enjeu, c'est, comme on le verra dans la suite des séminaires sur les aspects matériaux, atteindre ce type de figure de mérite est assez difficile, mais il y a un véritable intérêt à passer à la réfrigération thermoélectrique, si tant est que ce soit possible un jour à grande échelle. C'est déjà évidemment le cas pour des applications qui sont plus des applications, je dirais, limitées ou des applications de niche, mais pour passer à très grande échelle et remplacer tous les frigidaires domestiques par des réfrigérateurs Peltier, il faudrait atteindre des figures de mérite de ce type avec des matériaux qui soient évidemment cost-efficient, ce qui est un autre défi. Bon, alors, pour ceux qui veulent voir une vision un petit peu critique, peut-être trop critique, de l'utilisation possible soit de la réfrigération, soit de la génération d'énergie électrique par les thermoélectriques, vous pouvez regarder cet article qui est écrit de manière volontairement un peu provocatrice, j'imagine, qui vous montre comment l'efficacité de dispositifs thermoélectriques se compare en fonction de la figure de mérite à différents autres systèmes. J'aimerais bien avoir l'opinion de Thierry Kaya sur ce slide que j'ai mis ici volontairement pour provoquer un peu des discussions. Ce que j'essaye de dire là, c'est que on n'est pas en train de dire que les effets thermoélectriques vont permettre d'assurer la reconversion des 50% de chaleur perdue en énergie utile, mais que c'est une piste technologique importante et qui vaut largement la peine d'être poursuivie, à la fois du point de vue ingénierie et du point de vue science des matériaux, pour améliorer ces dispositifs. Bon, donc voilà un petit peu, je dirais, un certain nombre de bases énergétiques générales qui établissent la feuille de route pour la recherche de matériaux efficaces. On veut des matériaux qui aient un bon ZBEC, des matériaux qui soient des bons conducteurs électriques, et des matériaux qui soient des mauvais conducteurs thermiques. Alors, si on commence à regarder un petit peu ce dont on dispose, on s'aperçoit tout de suite que les bons métaux sont des très mauvais candidats. Et encore une fois, aujourd'hui, je ne fais pas du tout de choses détaillées ou précises du point de vue théorique. Je vais juste vous donner des arguments qualitatifs pour essayer d'estimer le Seebeck de système simple avec les mains. Donc, dans le cas d'un bon métal, on a vu que le pouvoir thermoélectrique, finalement, c'est quelque chose qui mesure l'entropie par porteur de charge. Et donc, cette estimation-là, elle permet très facilement d'estimer le pouvoir thermoélectrique, soit d'un métal, soit d'un isolant ou d'un semi-conducteur, par des arguments qualitatifs très simples, que vous pouvez trouver, par exemple, à peu près sous la forme où je vais les présenter, pas tout à fait, dans l'article de Paul Chaikin. Donc, dans un métal, on est toujours à des températures, dans un bon métal, hein, je sais pas, comme le cuivre, par exemple, on est toujours à des températures qui sont bien inférieures à l'énergie de Fermi, qui est aussi la température de dégénérescence du gaz d'électrons dans le système. Donc, dans ce régime-là, on est dans un régime quantique où l'entropie est limitée par le principe de Pauli, l'entropie disponible, elle est de l'ordre de KB fois KT sur EF. Hein, donc, vous voyez que ce rapport KT sur EF va être très petit. Et le coefficient Seebeck, c'est quelque chose qui est cette entropie par porteur de charge, par unité de charge électrique, donc vous divisez par E, et vous trouvez que l'entropie d'un métal, c'est quelque chose qui peut être positif ou négatif, selon qu'on a une surface de Fermi de type électron ou trou, mais qui va de toute façon être d'ordre KB sur E, fois un facteur très petit qui est d'ordre KT sur EF. Donc c'est ce facteur KT sur EF qui rend, puisque KT, disons 300 Kelvin, EF, plusieurs fois 12 000 Kelvin, hein, EF un électronvolt, plusieurs électronvolts. Donc ce facteur va être extrêmement petit, donc le Seebeck va être très petit, et pour mémoire et pour toute la suite de ce cycle d'enseignement, KB sur E, qui est l'unité de Seebeck, c'est quelque chose qui vaut 86,3 microvolts par Kelvin, et donc les métaux vont avoir des coefficients Seebeck très inférieurs à cette valeur. Une autre remarque à propos des métaux, qui s'applique d'ailleurs également à d'autres systèmes, c'est que je peux écrire le coefficient Seebeck comme la figure de mérite sans dimension, comme alpha carré sigma sur la conductivité thermique divisée par la température. Alors en fait, ici, j'aurais dû séparer dans la conductivité thermique une composante électronique et une composante réseau, hein, qui domine souvent la conductivité thermique. Et vous voyez que dans le cas des métaux, pour l'instant, commençons par négliger la composante réseau à très basse température, c'est une approximation raisonnable, seulement à très basse température. Vous voyez que la figure de mérite sans dimension, c'est à ce moment-là alpha carré divisé par le fameux nombre de Lorentz, qui est le rapport de la conductivité thermique divisée par T à la conductivité électrique. Et donc, d'une certaine manière, pour avoir une bonne figure de mérite, il faut arriver à battre en brèche la loi de Wiedemann-Franz, qui dit que ce nombre de Lorentz est une constante. Alors, la situation change complètement si maintenant je considère un semi-conducteur ou un isolant. Alors ici, il y a un petit calcul extrêmement simple. On verra une version beaucoup plus raffinée de ce calcul plus tard. Un calcul très, très simple où j'estime le coefficient Seebeck pour tout simplement un système à deux niveaux. Donc, supposons que j'ai un niveau, disons, de valence qui soit même sans dispersion, juste un niveau, et puis un niveau de conduction qui soit un autre niveau séparé par un gap delta, et qu'on soit dans un régime qui est au contraire le régime non dégénéré, c'est-à-dire presque de statistique boltzmannienne classique, où la température est beaucoup plus petite devant le gap, ce qui fait que j'excite très peu de porteurs de charge dans le niveau de conduction. Donc la probabilité d'occupation d'un état quantique dans le niveau de conduction, c'est quelque chose qui est un facteur de Boltzmann qui réfère donc à l'état du haut, hein, divisé par ça, donc vous voyez que c'est quelque chose qui est de l'ordre exponentiel moins bêta delta, très petit donc, et puis de même, la probabilité d'excitation, de créer un trou dans l'état du bas, c'est quelque chose comme ça. Vous pouvez estimer donc l'entropie correspondant à cette probabilité d'occupation comme P log P, et vous trouvez cette expression. Et pour trouver le Seebeck, eh bien il faut diviser cette entropie par le nombre de porteurs excités dans la bande de conduction, qui est aussi d'ordre exponentiel moins bêta delta, et vous voyez que quand vous faites ça, ces deux facteurs de Boltzmann se compensent, et vous trouvez que le ZIBEC correspondant et l'ordre bêta-delta, c'est-à-dire delta sur KT. Alors évidemment, ça c'est une valeur maximale. Hein. Si j'ai compensation complète entre les porteurs de type électron et les porteurs de type trou dans mes semi-conducteurs, eh bien le coefficient ZIBEC va être zéro, comme on l'a essentiellement intuité tout à l'heure. Donc il faut comprendre ça comme une sorte de valeur maximale, mais ça vous montre tout de suite qu'on peut avoir des grands coefficients ZIBEC dans les isolants. Donc ce alpha max va être d'ordre delta sur KT fois KB sur E. Je note au passage, d'ailleurs il y a des remarques qui ne sont pas toujours justes dans les livres là-dessus, qu'il n'y a aucune contradiction théorique avec le fait qu'un ZIBEC devienne très grand à basse température, puisque le troisième principe de la thermodynamique, disons, c'est que l'entropie doit tendre vers zéro à basse température, et l'entropie, ce n'est pas le ZIBEC, c'est le produit du ZIBEC par le nombre de porteurs qui contient ce facteur exponentiel moins bêta delta, donc l'entropie se comporte parfaitement bien à basse température. Le ZIBEC, lui, peut devenir grand. Alors, dans une vision réaliste d'un semi-conducteur, évidemment, il faut pondérer les deux coefficients ZIBEC par les mobilités correspondantes des porteurs L et des porteurs P, un petit peu comme dans le calcul de l'effet Hall avec deux types de porteurs de charge. Alors, ceci nous amène donc tout de suite à voir que si j'ai un bon métal, il va avoir un coefficient ZIBEC misérable. Si j'ai un bon isolant avec un grand gap, il peut avoir un grand coefficient ZIBEC, peut-être de l'ordre de 1000 microvolts par Kelvin. Mais en revanche, il va avoir une très mauvaise conductivité. Donc le facteur de puissance sigma carré alpha, sigma alpha carré, va être très mauvais. Et de même, donc le facteur de puissance va être très mauvais. Et la figure de mérite va donc être aussi très mauvaise. Donc les systèmes intéressants se placent un petit peu entre ces deux extrêmes. Hein, ils se placent entre les systèmes qui sont des beaux métaux et les systèmes qui sont des très bons isolants, ce qu'on représente souvent de la manière suivante. Là, je suis désolé, S, c'est en fait alpha. Donc, ce que vous voyez ici, c'est en fonction du nombre de porteurs de charge. Quand on passe de systèmes qui seraient des bons isolants à des systèmes qui seront des bons métaux, donc dans un système qui est un très bon isolant, on peut avoir un bon ZIBEC et une conductivité électronique misérable. Dans un système qui est un bon métal, on peut avoir une très bonne conductivité et un ZIBEC qui va être misérable. Et donc, quelque part entre les deux, il y a un maximum du facteur de puissance, alpha carré sigma, et ce maximum se trouve dans le régime des semi-conducteurs relativement fortement dopés qui vont avoir des densités de porteurs en pratique de l'ordre de 10 puissance 19 à 10 puissance 20 porteurs par centimètre cube, qui est une espèce de nombre magique qu'on trouve souvent dans le domaine de la thermoélectricité. Et effectivement, on peut dire que la physique des semi-conducteurs, au début des années 50, correspond à une sorte de premier âge d'or de la thermoélectricité, puisque les métaux sont essentiellement sans intérêt pour le domaine, du point de vue des applications. Eh bien, c'est clairement la physique des semi-conducteurs qui, disons, entre 50 et 65, 1950-1965, a donné un premier âge d'or au domaine, avec en particulier avec un certain nombre de grandes personnalités, en particulier une personnalité particulièrement fascinante, qui est Abraham Yoffe, qui est un physicien soviétique, un des pionniers de la physique des semi-conducteurs en Union soviétique, également d'ailleurs, pour ceux qui sont plus du côté de la physique des solides fondamentales, l'auteur du fameux critère de Yoffe-Regel-Mott, dont j'avais parlé dans le cours de l'année dernière, c'est le même Yoffe, hein, directeur de thèse d'un certain nombre de gens très 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 connus, et fondateur de plein d'instituts en Union soviétique, et en particulier de fameux instituts physico-techniques de Saint-Pétersbourg qui porte son nom. Et dans les années 50, donc Abraham Yoffe est une des personnalités scientifiques leaders du domaine. Il y a une motivation technologique, également, j'imagine, une motivation politique pour le développement des thermoélectriques. On peut, par exemple, faire des générateurs portables. Donc ça, c'est une photo assez émouvante, je trouve, qui est extrait du livre d'Abraham Yoffe, qui est un très joli livre d'ailleurs, sur la thermoélectricité, et qui montre un dispositif thermoélectrique. Donc il s'agit d'une lampe à pétrole, vous voyez ici, qui chauffe un module thermoélectrique qui est ici caché par ce truc qui est un radiateur à chaleur, hein, qui permet l'évacuation de la chaleur de manière efficace. Et ce dispositif permet d'alimenter, il produit quelques watts, et il permet d'alimenter un récepteur radiophonique, et donc d'écouter les discours des dirigeants de l'Union soviétique, même pour les soldats qui sont en poste dans des endroits où il n'y a pas d'électricité du tout. Voilà. Donc, Abraham Joffé, pionnier de la physique des semi-conducteurs pour les thermoélectriques, est également un des premiers à avoir réalisé l'importance de cette figure de mérite dans le domaine de la thermoélectricité, je crois. Et je recommande la lecture de ce livre, qui est vraiment, en fait, il y en a deux, qui est vraiment très inspirant dans le domaine. Alors, en fait, toujours à peu près à la même époque, la grande percée, je dirais, dans le domaine des matériaux semi-conducteurs, elle est due à ce physicien-là, Goldsmith, qui est quelqu'un très connu du domaine, une grande personnalité du domaine, qui est le premier, en fait, à faire du refroidissement Peltier en dessous de 0 degré grâce à la découverte de ce matériau, qui est le tellure de bismuth, qui est jusqu'à aujourd'hui, essentiellement, avec différents alliages de ce matériau, qui est jusqu'à aujourd'hui le meilleur thermoélectrique, je dirais, commercial. Et vous avez vu tout à l'heure, par exemple, que la société dont j'avais extrait les petits films s'appelle tellurex.com, c'est évidemment pour cette raison. Donc cet article, c'est l'article qui démontre la réfrigération thermoélectrique en dessous de zéro, et qui, 0 Celsius, et également montre l'intérêt de bismuth 2, tellure 3, comme semi-conducteur dans les applications thermoélectriques. Je voudrais aussi vous montrer le paragraphe final de cet article, 1954 quand même, je trouve ça assez remarquable, où il insiste sur le fait que thermoelectric generators might well have an important place in the future, notably in connection with the utilization of solar energy. Voilà, donc 25 ans avec la crise du pétrole, c'est quand même pas mal de terminer un article de quelques pages sur cette phrase. Bien, donc cette physique des semi-conducteurs, je dirais, elle se termine, enfin elle ne se termine pas, mais disons, elle commence à plafonner autour des années 60-65, où finalement il y a ce matériau, bismuth 2, tellure 3, qui est toujours en usage aujourd'hui et qui est difficile à dépasser. Et c'est à partir, je dirais, du milieu des années 90 qu'il y a une espèce de nouvel âge d'or de la thermoélectricité. Et ça, ça se voit bien si on regarde le nombre d'articles sur le web. Donc ça, c'est extrait d'un petit article de revue de ce physicien chinois ici, qui a compté le nombre d'articles qu'on trouve sur le Web of Knowledge avec comme mot-clé thermoélectrique ou thermoélectricité dans le titre. Et vous voyez très bien ces deux périodes d'intense recherche, la période entre les années 50 et le milieu des années 60, hein, ici, un plateau assez long où le domaine continue à exister de manière active, mais on ne peut pas dire qu'il explose vraiment. Et puis, vers le milieu des années 90, début des années 90, une montée exponentielle. Alors, je pense, en fait, un peu beaucoup de domaines ont une montée exponentielle d'articles, hein, il faut faire un petit peu attention. Mais quand même, cette rupture ici correspond à des vraies percées, des vraies avancées. Et je vais essayer de vous donner une première petite liste de ces avancées, juste pour vous mettre en appétit, évidemment, on va essayer de les couvrir au cours de ce cycle d'enseignement. Donc, ces avancées importantes, elles sont un petit peu dans deux directions. La première, elle tourne autour de la nanostructuration, du fait qu'on s'aperçoit qu'en nanostructurant les matériaux, en faisant par exemple des super réseaux, eh bien, on peut considérablement abaisser la conductivité thermique du système. Alors, en fait, c'est assez amusant, je vais y revenir dans la suite, parce que cette première proposition, elle n'était pas tellement faite au départ pour la conductivité thermique du tout, mais elle s'est révélée être utile dans ce domaine, de ce point de vue-là. Donc ça, c'est une première direction. La deuxième direction qui entraîne cette sorte de nouvel âge d'or de la thermoélectricité, c'est finalement de la chimie et de la science des matériaux, c'est l'élaboration de nouveaux matériaux qui se trouvent avoir des bons coefficients Seebeck et ou de bonne conductivité thermique, c'est-à-dire des conductivités thermiques basses, soit de manière intrinsèque, soit en combinant ça avec des idées de nanostructuration. Alors, parmi ces matériaux, il y en a beaucoup, mais j'en ai juste mis quelques-uns ici. Il y a l'apparition dans le paysage de matériaux oxydes, dont on entendra parler la prochaine fois, et puis de matériaux qui ont des degrés de liberté interne permettant la diffusion efficace des phonons, par exemple les structures de type scutterudite, sur lesquelles Thierry Kaya lui-même a beaucoup travaillé, il était un des pionniers de ce domaine, les clathrates, les phases de Zintl. Et donc j'espère qu'au cours des différents séminaires, cette année et l'année prochaine, on va pouvoir passer un petit peu en revue ces différentes possibilités. Alors voilà quelques exemples, et puis ça va terminer le cours. Donc du côté des matériaux oxydes, donc j'ai essayé de prendre juste quelques jalons hein, pour vous montrer, les travaux qui ont un petit peu démarré ces différentes directions de renouveau. Donc du côté des oxydes, je pense que c'est juste de dire que c'est l'article de Terasaki et collaborateurs qui a une grande influence dans le domaine. C'est un article de 97 qui a beaucoup de citations et qui constate le fait que dans ces structures de type sodium cobalto 2, donc on a déjà un petit peu parlé dans des cours précédents, eh bien, on peut avoir des grands coefficients Zeebeck. Et ce sont des structures qui sont des structures intercalaires, en quelque sorte. Ici, vous voyez ces octaèdres cobalt-oxygène 6 qui forment des couches entre lesquelles circulent des ions sodium, enfin, se trouvent des ions sodium qui occupent des arrangements désordonnés. C'est exactement le type de structure que vous avez dans les batteries de vos téléphones portables. Hein, c'est les mêmes matériaux que les oxydes lithium-cobalt qui sont dans la plupart de nos batteries et dont Jean-Marie Tarascon est un grand spécialiste. L'idée ici, c'est qu'il y a deux entités dans le matériau. Hein, il y a des entités dans lesquelles se passe la conduction électronique, qui sont ces plans ou ces couches cobalt-oxygène. Et puis ici, on a ces parties intercalaires dans lesquelles il y a un grand désordre des sodiums, et on peut penser que ça, c'est efficace pour la diffusion des phonons, par exemple. Donc c'est cette idée qu'on va retrouver dans beaucoup de matériaux d'intérêt actuel pour les thermoélectriques, que dans un même matériau, on peut avoir deux types d'entités et essayer de trouver des systèmes où la conduction électronique se passe bien à cause de propriétés structurales du système, et les phonons sont fortement diffusés à cause d'autres propriétés structurales du système. Voilà une petite table qui est écrite, qui est extraite de cet article-là de Terasaki, qui vous montre que, eh bien, on a des coefficients Zeebeck pour ce système qui sont de l'ordre de 100 microvolts par Kelvin, donc supérieurs à Kb sur E. Donc vous voyez que pour un système qui a d'assez bonnes propriétés de conductivité métallique, c'est quand même très remarquable. Et donc, ça sera l'objet du troisième séminaire de ce cycle de cours, de présenter toute une série de travaux qui ont été faits sur les matériaux oxydes dans ce domaine, en particulier au CRISMAT de Caen, où d'autres cobaltates ont été développés et inventés, en particulier des systèmes où on retrouve toujours ces entités cobalto 2, mais où il y a ici d'autres systèmes, d'autres entités, qui ont un pas du réseau incommensurable avec celle de cobalt 2, c'est ce qu'on appelle les cobaltates misfit, et donc pour cette raison diffusent bien les phonons. Alors toujours cette idée de séparation spatiale entre différents types de degrés de liberté, les scutterudites ou les clathrates, donc ça ce sont des systèmes, donc ici c'est la scutterudite vide, disons, cobalt SB3, et donc, ce que vous voyez ici, ce sont ces octaèdres. Hein, le cobalt, c'est les boules vertes au centre. SB, ici, forme ces octaèdres cobalt SB6. Et ce que vous voyez là, c'est que ces octaèdres sont arrangés de manière tiltée dans le système, de manière à laisser une très grande cage entre cet arrangement des octaèdres. Et à l'intérieur de ces cages, on peut venir substituer d'autres éléments qui vont pouvoir diffuser les phonons très, très efficacement, c'est ce qu'on appelle les racklers, les sortes de crécelles, hein, à l'intérieur de ces cages. Donc on retrouve cette idée de séparation spatiale dans le matériau. On a une bonne conductivité, on peut avoir une conductivité thermique efficace à travers ces structures-là, et puis une diffusion des phonons efficace à travers les atomes substitués dans ces cages. Et ça a été un petit peu formalisé sous le concept du cristal d'électrons vert de phonon, qui est c'est-à-dire un système qui a une bonne conduction cristalline pour les électrons et qui diffuse les phonons, disons idéalement, ce qu'on aimerait, comme un verre. Et on reviendra sur la validité ou non de ce concept, je pense, plus tard dans ce cycle d'enseignement. Donc, j'ai un petit peu parlé de matériaux nouveaux et je voudrais aussi finir juste sur l'aspect nanostructuration. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est au tout début des années 90 que les premières propositions sur l'utilisation de la nanostructuration pour les thermoélectriques ont été faites. Et je crois que c'est légitime de dire que l'article pionnier sur ce sujet, c'est cet article de Hicks et Dresselhaus, également très cité. Mildred Dresselhaus, au passage, est une personnalité absolument fascinante du monde de la science des matériaux et de la physique du solide. C'est une femme qui a plus de 80 ans, qui continue à produire plus de 30 articles par an. Je ne vous lis pas son nombre de citations, parce qu'il est absolument vertigineux. C'est également une personnalité remarquablement sympathique. Et dans cet article, en réalité, ce qui était proposé, c'est de faire des super réseaux ou de nanostructurer le matériau de manière à améliorer les propriétés électroniques du transport thermoélectrique. Et en réalité, cet article a été très fructueux, mais pas exactement pour les raisons qui étaient proposées dans cet article. On s'est plutôt aperçu que la nanostructuration permettait d'améliorer les propriétés de transport thermique en diffusant efficacement les phonons et donc en abaissant la conductivité thermique. Donc, il y a eu des travaux qui ont rapporté des figures de mérite en dimension supérieure à 2, quelquefois bien supérieure à 2, peut-être elles sont à prendre avec des pincettes, par ce genre de technique-là. Je vous montre par exemple ce graphe que je vous demande de prendre avec des pincettes. J'ai mis ici une petite citation de Snyder dans un article de revue de Nature Materials. One should be encouraged by results of ZT larger by one, but wary of the uncertainties involved to avoid pathological optimism. J'aime bien cette citation. Je ne pense pas que forcément ces figures de mérite très grandes soient très fiable, mais en tout cas, il est clair que la nanostructuration est une direction qui a fortement contribué à relancer le domaine, en même temps que la découverte de matériaux nouveaux, et c'est un peu ces deux directions qui motivent ce cycle d'enseignement, mais également d'autres aspects, et en particulier l'intérêt récent, ou le renouveau d'intérêt récent pour l'étude des effets thermoélectriques dans les systèmes mésoscopiques. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'arriverai, je pense, plutôt à l'automne, dans l'année prochaine de ce cycle de cours. Pour ceux qui veulent déjà apprendre des choses sur ce sujet, il y a, comme je le disais tout à l'heure, pas mal de jolies présentations sur ce site, qui est ce workshop de Cargès que Jean-Louis Pichard a organisé récemment. Donc il y a toutes sortes de choses là-dessus qui, finalement, entretiennent aussi des liens intéressants avec des questions de science des matériaux, d'une certaine manière, puisqu'il y a eu des propositions d'energy filtering qui ressemblent beaucoup à ces propositions de nanostructuration, ou le thermoélectrique idéal de Mann et Sofo, qui est également une proposition d'energy filtering. Une autre chose récente qui a été pas mal discutée par différents groupes, en particulier autour de Joe Imry ou de Marcus Bütiker à Genève, c'est des setups à trois terminaux. On utilise un troisième terminal pour faire de la diffusion inélastique. Donc ça, c'est aussi une direction intéressante, tout à fait différente, et qui finalement nous raccorde au problème des échanges d'énergie ou de la conversion d'énergie dans des nanosystèmes, qui est un domaine que je trouve assez intéressant. Et puis, tout récemment, et de manière assez reliée à ce genre de choses, il y a l'exploration des effets thermoélectriques dans les gaz ultrafroids, qui est une chose sur laquelle je travaille moi-même un peu, avec Charles Grenier et Corinna Collat, et le groupe de Tillmann Esslinger à l'ETH, et ça, j'espère vous en parler à l'automne. Voilà, donc je vais m'arrêter là, j'ai déjà dépassé mon temps, comme je le prévoyais, je ne vais pas avoir le temps de vous introduire la réponse linéaire et les coefficients de Hunsager, ça sera pour la prochaine fois. Donc la prochaine fois au menu, on va introduire la matrice des coefficients de Hunsager, les équations de la réponse linéaire, et on va commencer à dérouler la thermodynamique des thermoélectriques qui, en fait, s'applique de manière plus générale au problème de conversion d'énergie. Je vous remercie.